Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Avec les grandes voix, ce vendredi, sont réunis dans ce studio. Mickaël Darmon d'Europe 1, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Bruno Jeudy.
Bonsoir Nathalie.
Bruno Jeudy de Paris Match. Laetitia Krupa est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique. Et vous, auditeur au 3921, n'hésitez pas, pendant une demi-heure jusqu'à 19h, à nous contacter. Bien sûr, on va refaire la semaine politique qui a été pour le moins chargée. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être commencer par le fait du jour. C'est quand même trois ministres à Rouen. Aujourd'hui, on sort les rames. Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Didier Guillaume. On est 15 jours après l'incendie à l'usine Lubrizol pour installer ce comité pour la transparence et le dialogue. C'est ça, on sort les rames, Bruno Jeudy.
Oui, c'est assez étonnant en fait. L'explosion incendie dans cette usine a montré les lacunes du gouvernement en matière de communication. Alors c'est pas facile, mais c'est vrai qu'une communication classique à l'heure en 2019. Ben c'est simple, ça ne marche pas. Et on peut y mettre toute la bonne volonté, ça ne marche plus. Donc on voit que ce gouvernement, qui doit être celui du nouveau monde, eh bien, dans le nouveau monde, on n'arrive pas à rassurer une population qui vit autour du Grand Rouen. Et ça n'a pas marché. Ça pose vraiment de grosses difficultés, parce qu'on voit que ni le Premier ministre, ni les ministres de la meilleure volonté qui puissent, qui soient issus de l'ancien monde, comme le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, ou du nouveau comme Agnès Buzyn, ben ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, ils ont essayé de mettre encore un grand bazar pour essayer de rassurer.
Et alors attendez, parce que vous dites un grand bazar, Laetitia, on va compléter, un grand bazar qui s'ajoute au bazar, parce que là, quand ils parlent des analyses qui sont faites sur le lait et qui disent que tout est normal et qu'on va pouvoir y aller, les producteurs de lait vont peut-être pouvoir vendre leur lait, c'est pas clair non plus, ils nous l'ont
et
dit ben tout
voilà,
à l'heure.
Vous pointez le problème en fait de cette crise de communication, comme vous l'avez dit Bruno, il y a une énorme incompréhension de l'opinion publique. Or, le gouvernement a parié sur une irrationalité, une émotivité, il y a une mauvaise conception, une mauvaise appréhension de ce qu'est aujourd'hui l'opinion publique au temps des réseaux sociaux. Quand on lit et quand on analyse, quand on fait des datas, c'est-à-dire qu'il y a eu des analyses scientifiques qui ont vraiment pris toutes ces productions sur les réseaux sociaux, ce qui en ressort, c'est que les gens ne comprennent rien. D'un côté, au départ, on leur dit l'air, ça sent mauvais, mais ce n'est pas toxique. Agnès Buzyn qui, dans la foulée, nous dit Rouen est très pollué. Ça n'a été que ça. En fait, ça a été un début.
C'est une cacophonie de
et la compréhension du grand public, voilà. Et ça continue
jusqu'à aujourd'hui.
Oui, on a l'impression que ça va devenir un peu même l'arche narrative de ce quinquennat qui a commencé avec la première loi qui devait être la loi de confiance et qui devait changer les usages, les modes de fonctionnement, renouveler la pratique démocratique. Et depuis, tout à chaque fois, chaque événement dans son couloir, dans son contexte, vient télescoper ce principe. La crise de Rouen, c'est évidemment la crise majeure de confiance dans la parole publique. On le voit bien, on le répète, on va le voir encore finalement tous les jours, on le voit encore aujourd'hui. Aller venir installer un comité de transparence, les gens se disent automatiquement, c'est suspect.
Ça veut dire que
c'est la transparence, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. On est dans une...
C'est un peu la quadrature.
Tout est inversé. Exactement. Et on ne comprend effectivement plus rien. C'est la difficulté majeure du mandat aujourd'hui de Macron.
Alors le problème, c'est qu'en plus, ça s'est un peu inscrit comme ça toute la semaine. On va y revenir dans un instant avec Christophe Castaner et puis aussi avec Isabelle Goulard. Je voudrais juste qu'on soit en ligne avec Richard qui nous appelle ce soir du 76.
Du coup,
vous êtes juste à côté de Rouen. Bonsoir à vous.
Oui, 25
Richard.
Kilomètres. Oui,
c'est ça.
Oui.
Bonsoir.
Oui.
Vous êtes sensible depuis... là au déplacement, l'armée mexicaine en quelque sorte.
Non, du tout. Je suis pas sensible parce que depuis le début. On a été mené entre guillemets en bateau, quoi. Bon, la population rouennaise et métropole a été touchée. Et je pense que le gouvernement, au début, ça a été une ingérence. Ils n'ont pas pris mesure des conséquences, quoi. Parce que psychologiquement, on a été touchés. Moi, mes enfants habitent à Picouronne et au début, on nous a dit que l'entreprise avait, explosé entre guillemets. Mais si elle avait explosé, il y aurait plus Rouen, Piqueville, etc. Ouais. Bon, bref. Mais psychologiquement, je pense qu'on a été touché, oui.
Et puis, psychologiquement, évidemment. Merci beaucoup, Richard. Et on était chez vous à Rouen la semaine dernière, dans les locaux de Paris-Normandie. On a vu, évidemment, une population touchée.
Et puis, ce qui est absolument frappant, c'est qu'en réalité, c'est le gouvernement qui est sans arrêt mis sur la sellette, alors que c'est d'abord une entreprise qui a, quelque part, un lieu privé, certes, coordonné avec les pouvoirs publics parce que c'est extrêmement sensible, mais il a fallu plusieurs jours pour que les gens de Lubrizol se mettent à parler, notamment le responsable Monde en disant on est désolé, mais c'est le gouvernement français, ce sont les autorités qui ouais. sans arrêt sont sur la sellette.
Le Brizol qui s'engage hein. à indemniser ce soir les agriculteurs le touchés lendemain. Par... Oui, le lendemain.
Le lendemain dans des médias
c'était,
locaux.
C'était compliqué.
Radio.
Hein, comme,
je sais pas oui, si le surlendemain. Dans, non, non, mais factuellement, oui. factuellement voilà, Lubrizol a parlé, oui, dans les médias locaux et hier sur une chaîne d'info en continu. Mais c'est vrai que cette rareté de la parole a ajouté au doute.
Et Lubrizol qui s'engage ce soir à indemniser les agriculteurs touchés par les restrictions. Sylvie Goulard, on va en parler aussi, mais c'est juste après la pause.
Nathalie Lévy, votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Mickaël Darmon d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match et Laetitia Krupa, spécialiste communication politique. Et toutes vos réactions en direct au 39-21.
On refait la semaine politique avec nos camarades de ce soir en studio. Et si vous nous écoutez, n'hésitez pas aussi à nous interpeller. Alors, on était à Rouen il y a quelques instants et puis on se pose la question de cette claque, vous allez me dire c'est une claque, mais quand même Sylvie Goulard retoquée hier pour Emmanuel Macron, à part une claque, qu'est-ce que c'est quand on dit que c'est une écrasante majorité de 82 voix contre, pour rappel 29 pour et une abstention. C'était sa candidate pour c'était sa candidate. Il l'avait oui, défendue envers
absolument.
Et contre tout Bruno Jeudy. C'est une claque
oui,
alors.
Oui, c'est un camouflet okay. en bonne et due forme, un camouflet politique, diplomatique. Et j'allais dire, c'est sa faute à lui tout seul, puisque tout le monde l'a mis en garde. Donc là, pour le coup, c'est même étonnant qu'il y ait eu une surprise hier, alors que depuis plusieurs jours, tous les feux, tous les clignotants étaient au rouge. Ces oraux se sont très mal passés. Deux commissaires avaient été retoqués quelques jours plus tôt, côté socialiste, le roumain et les hongrois. Alors là, pour le coup, c'était les marcheurs qui avaient retoqué. Alors vraiment, tout, on allait dans le mur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'hier, il y a eu la réaction du président de la République alors, qui, moi, m'a laissé, qui moi, m'a
soufflé,
laissé
hein,
sur le cul. En quelques phrases, on a eu tous les défauts qui se sont. On avait l'arrogance, on avait le mauvais perdant,
il a tout balancé,
la colère surjouée, la mauvaise foi, voire même peut-être de choses un peu fausses, parce que l'histoire des présidents de groupe, il s'est fait retoquer. Franchement, hier, c'était vraiment une très mauvaise...
Quelle amertume.
Mais ce qui est encore étonnant, c'est qu'une fois de plus, celui qui nous avait posé le nouveau monde, les codes, les usages ont changé, a travaillé vraiment dans le plus peu style qu'on pouvait faire il y a très très longtemps, avec des combinaisons politiques, une volonté d'imposer quelqu'un qui était très fragile. Et puis, il s'étonne de voir qu'il y a des eurodéputés qui sont indépendants, qui sont d'une nouvelle génération, qui ont tous vu Borgen. Ils savent tous que maintenant, on change un peu les codes. Et c'est très différent. Évidemment, stupéfiant de l'entendre dire « je veux comprendre », comme si lui, il ne comprenait pas. Alors vraiment, si lui ne comprend pas ce qui s'est passé. Non, mais on comprend
c'est
bien.
C'est dommage parce qu'il avait plutôt
plus...
pris la main avec les élections européennes.
Oui,
il avait
beaucoup
pesé sur
c'était une façon, c'était simplement de la façade de ce point de vue-là. Et on voit bien aussi que dès qu'il touche quelque chose en Europe, ça ne fonctionne pas.
Et c'est le
depuis
problème.
Le début du mandat.
Et alors, pardonnez-moi, je poursuis là-dessus. C'est que le problème, c'est que c'est quand même lui, il s'est quand même vendu comme étant le représentant de l'Europe, comme leader de l'Europe.
Lui, bien sûr, il n'arrête pas depuis son arrivée à l'Élysée de vouloir incarner le nouveau leader de l'Europe. Rappelez-vous la une du Time Magazine. Hein. The next leader of Europe, c'était il y a quelques semaines.
Rappelez-vous
la presse unanime qui saluait le super diplomate de Biarritz.
Il y avait une vision, il y avait un discours, c'est vrai, mais il y a la pratique qui est totalement...
Il faut aussi un petit peu faire notre mea culpa. Voilà, on lâche.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
Non, parce que moi je pense qu'il conserve des cartes. Je pense qu'il conserve des cartes. Mais en Europe, c'est compliqué. On n'est pas tout seul. Et ça passe par des compromis. Et il ne pouvait pas imposer. Et puis surtout, il a quand même choisi une candidate qui n'était pas propre comme un
souverain. La semaine dernière, j'ai parlé avec des gens qui étaient à la Commission européenne. Et autour de la machine à café, il nous disait, mais elle va se faire rejeter. Pourquoi vous vous posez la question? C'est évident.
Mais est-ce qu'il est discret, Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est un épiphénomène? On va oublier, parce que de toute façon, il y aura quelqu'un pour la remplacer.
Voilà, d'abord, honnêtement, j'allais dire... Question grand public, ça leur passe quand même assez loin. C'est pas, ça n'aura pas beaucoup de conséquences. Rouen a beaucoup plus de conséquences et la préfecture de police beaucoup plus que. Mais sur le plan européen, oui, à chaque fois, il est quand même un peu. On voit bien qu'il va être obligé d'apprendre à composer, même si aujourd'hui,
il est quand même sans doute
le leader qui est quand même le mieux installé politiquement, puisqu'on voit bien qu'autour, il y a des difficultés
Brexit,
partout.
On
a quand même deux informations. Il a du mal à appréhender une situation, puisque vous l'avez dit, effectivement, tout le monde lui disait. Donc il y a un certain degré de surdité qui est inquiétant. Et en plus, il est surpris. Et du coup, l'Élysée envoie illico une consigne au membre du gouvernement pour dire vraiment zéro commentaire sur, sur ce fait-là. Donc là, ça, ça pose trois problèmes. Et Emmanuel Macron est le seul maître de sa communication, on l'a vu hier.
Voir une rélecture de l'histoire, ouais. C'est une crise allemande, alors que ce n'est pas une crise
européenne,
allemande.
Exactement.
Allez, on continue à dérouler cette semaine politique avec vous trois dans un petit instant.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. N'hésitez pas à réagir au 39-21. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix ce soir. Mickaël Darmon d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match et Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, et toutes vos réactions, notamment sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et puis les auditeurs aussi, on va d'ailleurs reprendre en ligne un d'entre eux dans une petite seconde. Les amis, je vais vous demander simplement de commenter et d'essayer de répondre à une de mes questions, parce qu'on refait le film de cette semaine politique et la question, évidemment, elle se pose autour de Christophe Castaner. Sa personnalité, son travail, ses compétences, son attitude, son indolence parfois, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire. Bon bref, est-ce que Emmanuel Macron peut sacrifier Christophe Castaner, oui ou non? Tour de table, Mickaël Darmon.
Pas allez. Pour l'instant, mais une fois de plus, il illustre un mode de gouvernance qui ne correspond en rien à la promesse de renouveau des méthodes. Il le soutient parce que c'est son ami, parce qu'il a été nommé là, qu'il ne peut pas se déjuger et qu'on nomme un ami au ministère de l'Intérieur dans la plus classique des traditions. Alors qu'il faudrait peut-être, au fond, réagir et remettre tout à plat. Mais là, le temps politique ne le permet pas.
Bruno, je poursuis ma question. Il est un boulet, on va le dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il est un boulet, Christophe Castaner, pour le président?
Ah, c'est le maillon faible du gouvernement. C'est clair que la sécurité, ça ne fonctionne pas pour Emmanuel Macron, mais plus globalement, il y a trois secteurs qui sont vraiment très compliqués pour le président et qui sont les trois secteurs de l'acte 2, la sécurité, l'Europe et l'écologie. Et là, on vient d'illustrer avec votre émission les trois problèmes qui viennent de se poser à Emmanuel Macron. Et en fait, je vais vous dire un truc, c'est même globalement, il a toujours subi les remaniements et il devrait être proactif, et c'est là qu'il devrait peut-être ne pas attendre. Chaque mois qui passe, c'est des ennuis un peu plus.
Bah oui, alors la question qui entraîne une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'il résiste? Vous avez parlé de cette proximité, Mickaël Darmon, mais moi je me dis, est-ce qu'il ne finalement sur la longueur il va pas tenir parce que aussi il plie mais il ne cède pas.
Oui, mais il va tenir, mais de quelle façon va-t-il être audible? Est-ce qu'il est encore audible, Christophe Castaner? Je ne pense pas. Alors on reste à ce poste clé, sans pouvoir parler, sans pouvoir être crédité par l'opinion publique d'une légitimité, d'une crédibilité. Comment fait-on pour rester à ce poste-là?
En tout cas, dans il se fait un peu plus accepté par les syndicats policiers. C'est déjà...
Oui, en tout cas.
Oui, mais ça, c'est normal. Il a tout donné aux syndicats policiers, il a promis de payer les heures sup, il a tout promis. Donc,
il s'est occupé des suicides. Il y a un travail interne qui est intéressant. Après, peut-être qu'aussi l'opinion publique est maintenant fataliste, n'attend pas grand-chose aussi, tout simplement, d'un ministre de l'Intérieur, sachant que tout repose, de toute façon, sur le président de la République. On le voit à chaque fois qu'il faut faire un débat sur n'importe quel sujet. On a 7 heures de débat.
C'est quand même embêtant, Michael, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Il y a eu des ministres intérieurs qui rassuraient l'opinion alors que les présidents étaient faibles. Je pense à François Hollande notamment.
Plus globalement, moi, ce qu'on comprend, c'est qu'au fond, c'est la fin de l'été indien. Hein. Ça avait commencé avec le G7, on croyait que ça y est, c'était le renouveau. C'était arrivé. On ne gagne jamais rien sur l'international. Aujourd'hui, on voit bien que les sujets lourds vont arriver. L'automne social va commencer aussi à arriver avec toutes les manifestations. Et cette fois-ci, eh bien, une fois de plus, Macron commence à reperdre la maîtrise du tempo.
Fillon le retour. François Fillon le retour, il est arrivé alors que personne ne l'attendait, si ce n'est qu'il y a l'élection quand même du président des Républicains dimanche, qui s'en préoccupe, vous me direz dans un petit instant. Il est arrivé comme ça, à la télévision suisse, sans prévenir. Il y a eu le petit tac là, Emmanuel Macron. Moi j'ai fait largement mieux, hein. On a passé l'extrait sonore évidemment hier plusieurs fois. J'ai fait largement mieux que les Gilets jaunes en mobilisant contre moi dans la rue. Et puis il s'est adressé aussi aux Républicains, écoutons.
Je pense que la droite française s'est suicidée avec ses divisions, et ça commence pas avec la campagne présidentielle, c'est bien plus ancien. Il y a quand même depuis une vingtaine d'années des batailles uniquement personnelles, uniquement individuelles, uniquement d'égo, et il n'y a pas beaucoup de débats idéologiques. Ce qui a animé la droite depuis les 20 dernières années, c'est pas des débats idéologiques.
Philippe nous appelle de Nantes. Bonsoir à vous, Philippe. Vous êtes filloniste, je crois. Hein ?
Absolument.
Le retour de François Fillon, l'élection à la présidence des Républicains dimanche, ça y est, vous y croyez, c'est...
Oui, enfin le retour de François Fillon, je ne pense pas que ce soit un retour en politique, mais cela dit, moi ça m'a fait du bien de le voir et de l'entendre. Ouais. J'ai participé à sa campagne, j'étais au Trocadéro et j'en suis fier, même si je ne fais pas partie de Sens Commun, mais j'y étais, il y avait du monde, et ça fait un grand vide, enfin pour nous les militants LR... Après la présidentielle, il y a eu vraiment un grand vide. Et bah, le voir, c'est peut-être bête, mais psychologiquement, ça m'a fait du bien. Bon. On est passé à côté d'un grand homme politique, à mon avis.
Alors dimanche, élection du président LR. Christian Jacob tient la rampe. la corde.
Oui. Bon, ça, on va laisser passer. On va voir plutôt ce qui va se passer après. Je pense.
Vous êtes effectivement, comme vous l'avez dit, dubitatif.
Oui, ça fait pas la une des journaux. C'est bon, ça va passer. Je pense que moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va se passer après, ce que la droite va réussir enfin à s'unir et à proposer un programme qui puisse être crédible et faire une bonne concurrence à Macron pour éviter l'extrême droite.
Merci beaucoup Philippe de votre appel depuis Nantes. Merci à vous. Alors, tour de table de nouveau à vous trois. D'abord Fillon quand même sur la droite, Fillon sur Macron. Qu'est-ce que ça veut dire ce retour à la télé suisse
de bon, alors, il n'y a pas de retour. François Fillon qui... Ça sert à quoi? Mais François Fillon, il est retiré de la vie politique, il est plutôt maintenant, il parle en homme libre. Bon voilà, j'ai trouvé que son propos était pas bien ajusté, pas bien calibré. La comparaison entre Gilets jaunes et ses réformes des retraites n'était pas très habile. Mais ce qu'il dit sur le fond de la réforme des retraites, à mon avis, est plutôt juste, parce que cette réforme des retraites, celle d'Emmanuel Macron, est mal embarquée. On peut quand même créditer à François Fillon d'en avoir fait deux, d'avoir plutôt sauvé éviter que les caisses soient en faillite. Après, je pense que François Fillon, aujourd'hui, il va falloir s'habituer, il va parler.
Il va faire des petites sorties comme ça.
Peut-être, donner un peu son avis. Bon, sur la droite, je ne suis pas sûr qu'il soit le mieux placé tout de suite pour en parler. Mais bon, en même temps, d'autres parlent. On voit bien que la droite, elle a un problème, c'est qu'elle a des fantômes et que ceux qui sont en piste aujourd'hui, soit ils ne sont plus dans le parti, soit ils ne sont pas assez capés pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Et du coup, ça illustre tout à fait la difficulté de la droite. Mais on a Nicolas Sarkozy, on a François Fillon.
Qui a sabordé la droite? Mais quel culot! Mais enfin, quand même, qui est responsable du naufrage de la droite? Enfin, François Fillon, quel culot!
Comme vous y allez.
Quel culot! Et du coup, sa parole est complètement, à mon sens, démonétisée et ça fait pchit. Voilà.
Ah, bon, je sais pas.
Michel Darmon, il se sera terminé. J'ai eu envie de faire un effet. Moi.
François Fillon, c'est vrai que sur la réforme des retraites, il sait de quoi il parle. C'est lui qui a aligné les régimes à l'époque. La vraie première réforme, c'est lui qui l'a faite. Après, la performance, c'est pas de mettre des gens dans la rue. Hein. C'est de rassembler et de faire en sorte qu'on règle leurs problèmes.
Merci à tous les trois, les grandes voix de ce vendredi. C'était un plaisir. Europe 1.